Et soeur, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Notre joie ne dépend pas de nous, ni de ce monde, mais c'est dans le Seigneur, parce qu'il est notre joie. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu nous as donné encore l'opportunité de réunir pour te louer, t'adorer et méditer ensemble ta parole. Nous te demandons de nous diriger selon ton esprit, afin que ta parole soit dite et atteigne le cœur de chacun de nous pour les changements, Seigneur, que tu attends de nous. Que ton nom seul soit béni. Amen. Amen. Et vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a rien qui se fait au hasard. Rien absolument. Et mercredi soir, frère Hugues était là. Mais on se saluait et puis c'est tout. Et pourtant, il a commencé avec le passage que je vais terminer. Vous comprenez ça? Le psaume 103. Du verset 1er au verset 5, j'allais terminer avec. Et pourtant, il a commencé avec. Et dans le chapitre, vous allez suivre... Pour voir, tout est dit là-dedans, on est poussière. Dieu, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et vous allez voir, quel Dieu, hein? Il dirige tout, et absolument tout. Et nous allons lire Psaume 39, verset 5. Pour notre prédication. Psaume 39, verset 5. Le psaume de David. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Le sujet de notre méditation s'intitule « La fragilité de l'homme ». Savez-vous que vous êtes fragile? Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous réserve la vie. David était en proie à des difficultés de la vie, accablé par la maladie, le péché. David se trouvait en face à la mort. Quand il a écrit les psaumes 38 et 39. Le feu de la souffrance s'enflammait dans le cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Il se tourne vers l'Éternel en ces termes. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Et ces déclarations nous conduisent vers le pourquoi nous sommes si fragiles? Et comment pouvons-nous nous consolider? Ordinairement, quand on parle de fragilité, nous voyons souvent un œuf. Hein? Un œuf et ça tombe. Il y a aussi des verres, des produits argileux. Quand ça tombe, mais pour nous, nous nous connaissons des êtres solides. Et pourtant, David dit, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il était conscient de sa fragilité. Il était conscient qu'il ne vaut rien que peu de choses. Il savait combien son existence est courte et éphémère. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils disparaissent comme une fumée. Chaque instant dans la vie est un pas vers la mort, a écrit Pierre Corneille. Chaque instant dans la vie est un pas vers la mort. Alors, les causes de la mort sont multiples et multiformes. La maladie. Le monde est en péril aujourd'hui par cette pandémie qui ravage sa population. Ce que nous vivons était annoncé. Alors, oui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous entendons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui était annoncé. Regardez ce que Luc il avait écrit dans Luc chapitre 21, verset 11. Regardez ce qu'il avait écrit. Il dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Avant le retour de Jésus-Christ. Alors, malgré le développement de la science médicale, les scientifiques sont restés bredouilles et impuissants devant le COVID-19. Par prévention, nous devons respecter les gestes barrières, oui. Mais il faut savoir que nous ne pouvons rien si nous ne sommes pas couverts de la protection de Dieu. Rien. Parce que nous sommes fragiles. Les causes de la mort peuvent être un accident de voiture. Vous roulez. Aller et retour. Si vous êtes rentré chez vous, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous met en sécurité. Parce que dans la rue, quand on roule, il y a des contrevenants à faire de feu rouge. C'est affaire qui vous concerne, c'est pas lui. Vous arrêtez et lui, il franchit. Et les vitesses ne sont jamais respectées. Les causes de la mort peuvent être un naufrage d'un bateau. Ça peut être le crash d'un avion. L'avion est tombé avec tous ses passagers. Cadavre sur cadavre. Une catastrophe naturelle. Tremblement de terre, inondation, et j'en passe. Tout peut causer la perte humaine. Et Chateaubriand, dans son livre Le génie du christianisme, a noté que l'homme ne peut dire en naissant quel point de l'univers gardera ses cendres, ni de quel côté le souffle de l'adversité les portera. On est là ce matin, vivant. Nous pouvons faire et dire tout ce que nous voulons, mais nous ne savons pas où sera notre cendre. Si c'est dans la mer que les poissons vont nous dévorer, ou bien c'est dans un labyrinthe, nous ne savons pas. Nous sommes nulle part en sécurité si ce n'est qu'en Jésus et en Jésus seul. Nous marchons comme si tous les jours avec nos cercueils sous les bras. Qui peut dire combien de temps qu'il lui reste à vivre? Qui peut? Qui sait combien de temps qu'il lui reste à vivre? Et voilà pourquoi dans le psaume 90, verset 12, écrit par Moïse, il dit: « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Puisque la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un AVC peut nous surprendre à tout moment. Nous étions très gais dans un instant, et puis dans l'autre instant, il y a un bord qui est parti. Si nous sommes là encore, c'est pas la grâce de Dieu. Il y a trop de menaces, il y a trop d'épées d'Amoclès suspendues sous nos têtes. Mais Dieu nous aime, il nous protège, il nous garde. Beaucoup de femmes sont mortes par éclampsie ou par césarienne pendant leur accouchement. Si vous n'avez pas de respect, d'amour, d'appréciation pour vos mères, apprenez à garder cette reconnaissance pour les mamans. Un défenseur d'inégalité sociale a écrit: « J'écoutais la vie à ma mère, elle mourut à ma naissance. » Des enfants qui ne connaissent même pas leur maman. Pourquoi? Parce que à la naissance, leur mère est morte. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Tant de bébés aussi sont morts dès les entrailles, avant même de voir le jour. Qui de nous, par inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Personne. Parce que notre vie est assurée par Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous protéger, nous garder, nous diriger partout où nous sommes. Depuis le déclenchement du coronavirus, la multitude des projets que nous avons faits ne sont pas réalisés. Pourquoi? Parce que personne ne peut prédire l'avenir. Nous pouvons dire et faire tout ce que nous voulons. Mais Dieu, il est là. Il nous suit. Il nous écoute. Et des fois, il se rit de nous. Et oui. Parce que l'avenir est à Dieu seul. L'étonnant, même les croyants et les chrétiens ne cessent de répéter « Demain je ferai ceci, demain je ferai cela » sans dire « Si Dieu veut ». C'est comme si le temps était à eux. Nous nous disposons de notre temps. Quelles leçons avons-nous tirées durant le confinement et le déconfinement? La réponse est à chacun de nous. Quelles leçons? Est-ce que ces leçons sont mises en pratique pour le changement? Ou bien nous restons comme nous étions avant? Je suis Jean-Pierre, je n'ai pas affaire à Roland. Je suis Brigitte, je n'ai pas affaire à Marlène. La vie de Dieu, la vie que Dieu demande pour nous, c'est une vie collective. C'est une vie de solidarité. L'évangile que nous avons, c'est un évangile communautaire. Si nous nous restons chacun de nous dans notre coin, pendant que les autres périssent, nous avons des comptes à rendre devant Dieu. Oui. Cette tranche de vie que nous vivons aujourd'hui nous laisse un goût amer. Et ce n'est pas fini. Car l'avenir nous réserve toujours des surprises. Nous attendons les infos, nous voyons. Ce n'est pas encore gagné. Il faut prendre des précautions. Vous qui formez des projets, voici ce que Jacques nous conseille. Nous allons voir ensemble. Hein? Jacques, chapitre 4. Nous allons voir ensemble. Jacques, chapitre 4, nous conseille, verset 13 à verset 15. Jacques, chapitre 4, verset 13 à 15. Il dit à ceux qui forment des projets, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Ce n'est pas une phrase qu'on entend presque, est-ce que c'est en France ou bien à Paris, je ne sais pas. Mais dire, quand on parle à quelqu'un pour dire, ah ok, à demain, demain si Dieu veut. À demain. Et puis c'est tout. Et ça fait que même quand nous en tant que croyants, nous disons si Dieu veut, c'est comme si c'est lourd. Vous comprenez ça? Vous parlez soit dans votre administration quelconque, eh bien, soit votre collègue, il vous dit, hey, Jean-Pierre, on se verra demain. Eh oui,
On se verra demain si Dieu veut. On trouve un peu lourd. Tellement ça rentre dans une culture qui n'est pas française. Mais vous savez, la parole de Dieu transcende toute culture, toute race, toute connaissance. Demain ne nous appartient pas. Nous devons dire, chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous allons faire, il faut dire si Dieu veut. Parce que si Dieu ne veut pas, ça ne va pas arriver. Notre vie est trop courte et trop fragile pour ne pas inviter Dieu dans nos affaires. Et c'est souvent la cause de nos échecs, puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc ça veut dire, dans les projets et autres, si nous ne mettons pas Dieu dans nos affaires, il y a échec. David l'a dit dans le psaume 1er. Quand nous méditons sur la parole de Dieu, c'est alors que nous réussirons. Josué l'a dit dans le chapitre 1er, verset 8, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc vous voulez partir seul? Allez! Mais quand l'échec arrive, ne donne pas la responsabilité à Dieu. C'est votre responsabilité. Parce que vous ne l'avez pas invité dans vos affaires. Vous êtes trop intelligent, vous êtes trop orgueilleux. Frères et sœurs, nous ne sommes rien et absolument rien. Si nous nous étalons comme nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné la vie. Nous avons le souffle. Enfin, il y a la vie. Mais quand il n'y a plus ça, c'est fini. Le monde aujourd'hui est exposé. Vous savez que le monde n'a pas besoin de grandes armes, de missiles aujourd'hui pour détruire le monde. Vous savez ça? Ça veut dire dans l'air seulement. Quand il n'y a plus d'air, l'oxygène à respirer, c'est la mort. Il y a l'asphyxie. C'est la mort par privation d'air. Quand il n'y a plus d'air, on ne respire pas. On est mort. Parce que notre vie est fragile. Ecclésiaste chapitre 3, verset 20a, nous dit, tout a été fait de la poussière, hein, et tout retournera dans la poussière. D'où l'expression, mordre la poussière signifie mourir. Vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Il n'y a pas raison de se dire « je suis ». C'est Dieu qui est « je suis », ce n'est pas nous. S'il vous a fait grâce, frère, il a commencé avec le chant « Comptez les bienfaits de Dieu ». C'est un chant de reconnaissance. Les bienfaits de Dieu sont multiples. La vie qu'il nous donne, l'être que nous sommes, c'est les bienfaits de Dieu. La nourriture, le travail, l'argent que nous avons, c'est les bienfaits de Dieu. La voiture, la maison, la connaissance, c'est les bienfaits de Dieu. Tout, c'est par la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait et nous n'avons rien mérité. À l'entrée principale du cimetière de Port-au-Prince, capitale d'Haïti, est affiché sur un tableau Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est une grande leçon. Mais est-ce que les gens qui rentrent prêtent attention à cela? Souviens-toi. Des fois, nous oublions. Nous oublions que nous sommes poussière, nous sommes tellement je suis, nous sommes tellement orgueilleux, nous sommes tellement supérieurs aux autres. Nous oublions que nous sommes poussière. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a le souffle. Quand il n'y a plus de souffle, c'est fini. Quelqu'un est mort sur la route. Après 24 heures, à la vérité, tout le monde s'écarte de cette route. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de glace ou de sel pour protéger ses corps, c'est fini. Toute la zone est envahie. Vous êtes fragile et vous êtes poussière. S'il y a quelques félicitations à faire, c'est féliciter Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. S'il y a quelque « je suis » à dire, il faut dire « je suis heureux par la grâce de Dieu parce que je le salue en Jésus-Christ. » Mais tout le reste est vanité. Toute la peine que l'homme se donne pour amasser des biens et des trésors est vaine, car la vie est trop courte. Ecclésiaste nous exhorte. Regardez ce qu'il a dit. Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 14. Il est un mal grave que j'ai vu sous le ciel, sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Verset 13. Ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Verset 14. Comme il est sorti nu, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il n'était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Moïse continue dans le même sens, dans le psaume 90 que nous avons vu tout à l'heure. Dans le psaume 90, le verset 9 et le verset 10, voici ce qu'il a écrit. Il dit, « Tous nos jours disparaissent par ton cou. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 années. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils n'en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Se lever tôt pour aller travailler, se coucher tard à cause il y a toujours de quoi faire, le résultat de tous ces sacrifices, c'est la peine et la misère. Demandez à vos parents, Demandons à nos parents comment il avait travaillé et aujourd'hui qu'est-ce qui est resté, comment il a vécu. C'est une continuité. Donc voilà pourquoi le temps que nous avons pour dire à Dieu merci, 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 il faut le faire. Parce que la vie est courte. Donc le résultat de tous ces sacrifices n'est que peine et misère. La brièveté de nos vies devrait nous inciter à faire preuve de sagesse et de respect pour Dieu. Et oui, Dieu qui est notre Créateur, Dieu qui est notre Sauveur, le respect, tout respect, lui est dû, parce qu'il est Dieu. Pourtant, l'Église compte aujourd'hui beaucoup de chrétiens saisonniers, des croyants d'occasion et des fidèles du dimanche. Bon, si je viens le dimanche, c'est bon. Affaire étude biblique les mercredis, ça c'est affaire qui concerne les pasteurs, les diacres, les membres du conseil. Si c'est quand il y a un service de baptême ou bien quand il y a un spectacle à l'église, on trouve que la salle est pleine. Si c'est comme ça, nous servons le Seigneur, nous le servons mal. Parce que les chrétiens de l'église primitive, ils étaient tous les jours ensemble, de même cœur, d'une même âme. Ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Ensemble, ils étaient assidus à la parole de Dieu. Et alors cet exemple, c'est pour nous. Et pourquoi nous sommes saisonniers? Pourquoi nous sommes des chrétiens d'occasion? Ou bien pourquoi nous sommes des fidèles qui viennent ici quand cela me semble bon? Je viens. Il n'y a pas de différence non plus entre leurs paroles, leurs actes et leurs comportements. Toutes ces choses ne sont pas différentes des actions des païens du dehors. Mercredi dernier, nous étions à 1 Corinthiens 5, le verset 1er. C'était étonnant, hein? Étonnant de lire ce que Paul a écrit à l'église de Corinthe. Étonnant de voir ce qui se passe à l'église est différent de ce qui se passe du dehors. Des actions louches, malhonnêtes qui sont à l'église, ces actions-là, on ne les trouve pas dehors. Alors que nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Quel exemple que nous donnons? Est-ce que nous donnons l'exemple pour que les gens du dehors nous suivent? Par notre comportement, nos paroles, notre fréquentation? Et puis nous voulons tous mettre toutes ces responsabilités sous le dos de Dieu ou bien sous le dos du diable. Le péché est la deuxième cause qui rend notre vie fragile et périssable. À la création, la mort de l'homme n'était pas dans le plan de Dieu. Et non. La mort est la conséquence de nos offenses et de nos culpabilités. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, si nous voulons la vie, il faut chercher Jésus. Nous avons deux naissances ou deux natures. Biologiquement, nous sommes nés d'une femme. Certainement. Nous sommes nés d'une femme. Ma mère a 90 ans. Mais elle est encore à l'église dans ses activités. Nous sommes nés d'une femme. Donc, si vous êtes né une fois, vous mourrez trois fois. Ah, ça est étonnant, hein? Si vous êtes né une fois, vous mourrez trois fois. Comment ça se fait, frère Jean-Pierre? C'est souvent répété ici, hein, avec Pasteur Aldo. Eh oui. Puisque il y a la mort à cause du péché, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Si c'est seulement par X femme que vous êtes né, il n'y a pas l'autre naissance, vous êtes mort éternellement. Par contre, si vous êtes né deux fois, vous mourrez une seule fois. C'est la mort physique, puisque nous avons la vie éternelle. Avec la naissance spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Nicodème, un docteur de la loi, ne pouvait pas comprendre cette déclaration de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Eh oui, il faut avoir obligatoirement cette nouvelle naissance pour avoir accès dans le Saint-Lieu. C'est la naissance spirituelle. Il faut naître de nouveau. Sinon, vous êtes perdu. Alors maintenant, comment consolider nos vies si fragiles? Il y a des circonstances de la vie qui imposent une décision. Eh oui. Dimanche dernier, Dieu nous avait parlé à travers frère René. Nous avons vu Josaphat dans sa frayeur se disposa à chercher l'Éternel. Eh oui, les circonstances qui arrivent nous demandent, nous imposent même de prendre des décisions. Parce que si vous ne partez pas, si vous ne sortez pas, si vous ne dites rien, eh bien vous allez voir. Nous observons ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec cette question de feu. C'est des choses, mes frères et sœurs, abominables. Qui peut expliquer ce qui se passe là-bas? On voit des agents de police qui arrivent dans la maison, qui demandent à la personne, « Madame, il faut sortir !» Parce que si la personne ne sort pas, elle va être réduite en cendres. Il faut sortir. Fondu dans ses larmes, David,
il était obligé de prendre une décision. Hein? Oui, il était obligé de prendre une décision. David sort de son silence et implore le secours de l'Éternel. Il confesse la reconnaissance de ses péchés. Regardons ce qu'il est écrit dans le psaume 38. Je vous ai parlé au début pour dire dans quelles circonstances il avait écrit ces deux psaumes, 38 et 39. Dans le psaume 38, verset 4, David parle, il sort de son silence. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mon iniquité s'élève au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Ce n'est pas facile, mes frères. Et quand on est conscient de son péché, on demande pardon à Dieu. Dieu, il intervient. Quand on cherche le secours de Dieu dans la repentance, Dieu, il entend, il intervient. Donc, si vous restez dans le boubier de vos péchés, ne mettez pas les responsabilités sur le dos de Dieu, mes frères et sœurs. Regardez ce qui est écrit dans Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mes péchés. Un résultat positif. Hein? Tu as effacé la peine de mes péchés. Vous savez que l'Éternel, il est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. David soulage sa frustration en acceptant les limites que Dieu a fixées à sa vie. Il demande l'aide de Dieu pour mieux comprendre la brièveté de sa vie comparée à un souffle. Ça passe vite. Hein? David reconnaît que Dieu a donné à l'homme une vie de courte durée. Il se confie en Dieu, son seul espoir. Dieu seul donne la permission de jouir des jours qu'il lui est resté à vivre. Dieu seul. Vous pouvez mettre tout pour demain, mais si Dieu n'approuve pas, c'est fini. Il y avait un événement négatif au Brésil. Il y avait un couple qui, après le mariage, avait leur pavillon. Ils sont partis là-bas pour la lune de miel. Ils ne sont pas retournés. Cadavre. Le secret de la vie réside dans la bonne relation avec Dieu et dans la communion avec lui. Donc il faut toujours bien garder la communion avec Dieu. Sinon vous êtes seul. Et si vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, Satan peut vous engloutir. Parce qu'il est un lion rugissant. Rôde autour de nous cherchant qui il dévorera. Si c'est pas Jésus, vous êtes vulnérable à la gueule de Satan. David s'exhorte lui-même de bénir l'Éternel de tout son cœur pour ses bienfaits. Il loue l'Éternel pour ses grâces, pour la guérison de ses maladies et pour sa délivrance de la mort. Nous n'allons pas lire le psaume 103 du verset 1 à 5 parce que c'était là. Dieu a tout fait. Notre fragilité raccourcit notre vie à une courte durée, mes frères et sœurs. Heureusement, nous avons en Jésus une vie éternelle que rien ne peut détruire. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir. C'est une assurance. C'est une bonne couverture de mutuelle. Tout le monde ici a une mutuelle. Hein? Mais les mutuelles ne peuvent rien faire. La voiture est brisée, la maison est brûlée, rien. Mais Jésus, il nous protège en toutes circonstances. Au Liban, dernièrement, nous avons vu ce qui se passe. Et pourtant, c'est là, il y avait une femme enceinte, l'enfant est sorti. Vous comprenez ça? Dieu, il protège qui il veut. Et il est là, en toutes circonstances. Si vous êtes né seulement d'une femme, votre vie est passagère. Si vous êtes né de l'Esprit, votre vie est cachée en Jésus. Il est le Logos, la source et le moyen de subsistance de toute vie dans le monde, sous quelle que soit forme. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Si le Saint-Esprit habite en vous ce matin, vous avez la vie éternelle. Vous êtes bien. Ne vous pataugez pas. Vous êtes bien. Restez en Jésus. Grandissez dans la parole de Dieu. Comme Pierre nous l'a demandé, il faut croître dans la parole de Dieu. Sinon, vous êtes mort dans vos péchés. Le salut vous est offert. Acceptez Jésus pour avoir la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes fragile. Pour consolider notre vie, nous devons nous remettre totalement à Dieu. Et ceci, jour après jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.